Très bel après-midi sur France Culture. Il y a les lieux, il y a les hommes et les échos du temps, la bande-son d'une époque, Amaury Chardot.
Merci Anne et bienvenue à tous en direct de la Maison de la Radio. Aujourd'hui, quand le quartier latin se met à l'heure orientale.
Même le soir, quand vous allez à la Favorite Saint-Michel, un café qui s'appelle la Favorite, ou au Luthier à son face, ou chez Amistad de la Harpe, vous rencontrez tous les musiciens. Des Juifs, des Arméniens, des Algériens, mais c'est tous des amis, et ça parle que musique. Et moi j'habitais là-bas, j'habitais rue Dauphine. La vie, l'art était là-bas. C'est Hollywood de l'époque.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Amaury Chardot.
Une page d'histoire mise en récit par un texte, des archives et des musiques choisies chaque dimanche à 15h sur France Culture. Voici Jukebox. Retour aujourd'hui à Paris où, à la Libération, avaient fleuri les cabarets orientaux. Sur fond de lutte anticoloniale et de guerre d'Algérie, ces cabarets, situés notamment vers Saint-Germain-des-Prés, attirent une riche clientèle arabe mais aussi occidentale. S'y produisent des musiciens algériens, musulmans ou juifs, des turcs, des égyptiens, mais aussi des orchestres et des chanteurs européens. C'est que la France s'entiche alors d'orientalisme, rêve d'ailleurs de Laurence d'Arabie ou de femmes dénudées. S'y déploie tout un Orient fantasmé, la sensualité des danseuses du ventre, mais surtout des musiques dont les textes mélangeant l'arabe au français chantent davantage les clichés exotiques que la douleur de l'exil, mêlant aux sonorités orientales les nouveaux rythmes du jazz, du cha-cha-cha ou du mambo. Aujourd'hui 1945-1980, Lorient, rive gauche. Faut les voir lorgner sur la danseuse, les yeux ronds comme des billes, la bouche béante. Ils tiennent à peine en place. Ceux des premiers rangs ont quitté leur table et, titubant vers la petite scène, ils tendent vers la danseuse des billets qu'ils glissent dans son corsage. Le sourire qu'ils reçoivent en retour leur paraît une promesse divine. Pendant ce temps, les musiciens de l'orchestre jouent, impassibles, concentrés sur leurs instruments. À d'autres tables, on devine des touristes venus d'ailleurs, des Norvégiens, des Suédois, des Italiens. Ils n'en croient pas leurs oreilles, ils ont bien fait de venir passer ce séjour à Paris, c'est tellement cosmopolite. Le décor, fait de stuc et de tentures de soie brodées d'or, participe de l'illusion, du rêve. Tandis que se vide des litres de vins algériens, nul ne prête attention aux deux hommes qui viennent d'entrer et qui s'avancent, l'air sombre et le col relevé. Leurs yeux balayent la salle jusqu'à se fixer sur le patron des lieux. Ils fondent sur lui. On n'entend pas leur discussion, mais le taulier a l'air inquiet. On le sent qu'il cherche à apaiser les types. Ses tempes perlent de sueur. Il finit par contourner le comptoir, d'où il tire une épaisse enveloppe qu'il fait glisser discrètement sur le zinc. Les deux types s'en saisissent et disparaissent comme ils sont venus. Nul n'a remarqué leur manège. Entre-temps, l'orchestre a terminé son morceau sous les applaudissements. La danseuse est sortie de scène, comptait ses billets et fuir les regards lubriques. Et la musique reprend, plus entraînante encore, déclenchant, décuplée, l'enthousiasme du public. Seul le patron, les yeux baissés, semble absent à la liesse générale.
Chris, Chris, Alibaba, Chris, Chris, Alibaba.
Guitares électriques, cuivres et flûtes pour ce Alibaba Twist signé Bob Azam en 1962 qui sera repris quelques semaines plus tard par Claude François pour son premier enregistrement. L'Orient à la sauce twist donc comme un premier mélange des genres. Ces années 50 et 60, la France chavirait donc pour l'Orient, un tropisme qui était loin d'être nouveau. Depuis le 19e siècle déjà, nombre d'artistes hexagonaux avaient puisé leur inspiration dans son exotisme. Les peintres en avaient fixé des scènes typiques comme les charmeurs de serpents ou les marchés d'esclaves par Jérôme, mais ils avaient surtout célébré la sensualité des femmes. De la Croix à Alger, mais surtout à Ingres et les rondeurs alanguies de son bain turc. Les écrivains avaient noirci des pages et des pages, Chateaubriand chantait les bains, parfums, danses et délices de l'Asie, Flaubert évoquait les harems comme le rêve de tous les collégiens, sans parler de Baudelaire et des autres. L'espace auquel l'Orient renvoyait alors avait certes des contours flous s'étalant des déserts marocains et algériens à la lointaine Perse via l'Égypte, l'Anatolie ou la Grande Syrie. Mais il incarnait tous les possibles, les transgressions, la polygamie, l'opium, les mille et une nuits, en somme. Cet attrait pour l'exotisme s'était renforcé au gré des expositions universelles et coloniales. Celle de 1889, déjà, avait donné à voir, reconstitué, des cafés morts où se retrouvaient les hommes et où dansaient les femmes au son de la derbouka et de la gaïta. L'exposition de 1931, célébrant la France impériale à l'apogée de sa puissance, avait encore renforcé ces stéréotypes. Cette appétence pour cet exotisme chamarré, on l'avait logiquement retrouvé dans la musique hexagonale. Dès 1910, les premiers chanteurs kabyles étaient venus enregistrer à Paris. Ces musiciens se produisant dans les cafés arabes de la capitale, où viennent les applaudir les ouvriers algériens de Clichy, de Saint-Denis, de Nanterre ou de Gennevilliers. Certains musiciens algérois se produisent même à l'Empire ou à l'Olympia, mais c'est plus rare. Après-guerre, pour mieux parler au public français, les gammes arabisantes se coloreront de rythmes occidentaux ou latins, ceux des danses à la mode, rumba, cha-cha-cha, twist, tango. L'une des stars du genre, c'est alors Dario Moreno, un juif né en Turquie d'un père turc et d'une mère mexicaine. Il découvre Paris en 48 et y enregistre son premier disque. Chanteur d'opérette, il donne son premier concert en 54 et connaît le succès avec des chansons comme « Comme elle danse, quand elle danse » ou bien « Comme ici » où il chante son pays natal dont la capitale a changé de nom mais que les Occidentaux persistent à désigner par son ancien Constantinople, plutôt qu'Istanbul.
Istanbul, Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je l'ai trouvé un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul. Le muezzin chantait en haut d'un minaret. Et tout le long du Bosphore, je faisais déjà des rêves de Istanbul. La vie était belle, c'est à Istanbul. Je me le rappelle que mon cœur fut pris par les sortilèges de l'Asie. Je l'ai suivi dans la foule, un soir sous le beau ciel d'Istanbul. Istanbul, 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 Istanbul. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je me voyais déjà arrivé au paradis d'Allah qui vous attend là-bas. Oh Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je m'approchais en me faufilant au milieu de la foule d'Istanbul. Je ne savais comment traduire mes sentiments. Mais en riant, elle me dit, comme vous, j'arrive droit de Paris. Oh, Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, Constantinople que nous avons pris. Le train qui nous ramène à Paris, loin du bruit et de la foule. C'est bon de rêver à Istanbul. Istanbul ou Constantinople, le bonheur est là, souvent à sa porte, c'est bien inutile d'aller le chercher, je ne sais où. Istanbul ou Tombouctou, l'amour, il est là tout près de vous. Istanbul, Istanbul.
Accompagné par l'orchestre de Michel Legrand, Dario Moreno pour ce Istanbul de 1954, adaptation d'une chanson composée l'année précédente par deux Américains sous le titre Istanbul Notes Constantinople et enregistrée par un quartet canadien puis par Ella Fitzgerald et Bing Crosby. Mais si Dario Moreno, lui, se produit dans les grands music-halls parisiens, l'Olympia, l'ABC, l'Alhambra, la plupart des autres chanteurs méditerranéens n'y ont pas accès, eux, leur terrain de jeu, ce sont donc les cabarets orientaux. Des cabarets, Paris en regorge alors. On en dénombre bientôt 200, notamment une multitude de petits établissements situés sur la rive gauche où, de Barbara à Gréco, de Brassès, de Brassens à Brel ou Vian, tant d'artistes feront bientôt leur gamme. C'est là, au cœur du quartier latin, que naissent les premiers cabarets orientaux parisiens.
Le cabaret oriental, ça commençait le soir à partir de 8h30, 9h. Les gens venaient manger le couscous et en même temps, ils regardaient le spectacle. C'est-à-dire, il y a une danseuse, deux danseuses. Quand elle dansait, on lui mettait de l'argent sur le front ou dans la poitrine. C'était pour les musiciens aussi. La chanteuse et les musiciens. Moi, je faisais partie de l'orchestre, donc toute la nuit, ça n'arrête pas. Quand je rentre à la maison, il fait jour. Alors, on jouait pendant qu'il mangeait. Après, on s'arrêtait un moment et on reprenait pour aller jusqu'au matin. Quand il y avait une vingtaine de personnes, c'est le maximum. Il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, des Marocains, des Égyptiens des fois, des Syriens, des Libanais. C'était plutôt les gens aisés qui viennent manger le couscous. Alors ils venaient, des touristes, des Anglais, des Américains, des Suédois, des Norvégiens, je ne sais pas. Toutes les races qui viennent à Paris viennent voir par curiosité qu'est-ce que c'est que ce couscous. Qu'est-ce que c'est que cette musique orientale? Et venez passer une soirée chez nous.
Comme l'expliquait il y a quelques années au micro de Catherine Gilliardi sur France Culture, le compositeur Youssef Hajjaj, né en Tunisie, Paris voit donc se multiplier, plier ses cabarets orientaux. L'un des premiers s'appelle El Jazaïr, l'Algérie en arabe. Il avait ouvert en 1935 rue de la Huchette, à deux pas de la place Saint-Michel, grâce au compositeur algérien Mohamed Iguer Bouchen. Pendant l'occupation, il est animé par un certain Rachid Ksentini, un chansonnier qui développe des chansons traitant des problèmes sociaux comme le chômage, mais de manière humoristique. Cyprès étudiant ou homme d'affaires venu de tout le monde arabe, mais aussi des Français, des diplomates, des touristes de passage. Quelques années plus tard, le cabaret propose des spectacles de danse. 25 filles s'y déhanchent chaque soir, parmi lesquelles une certaine Scheherazade, une Algérienne qui avait quitté son pays natal au bras d'un militaire français. Elle a alors 17 ans, elle apprend son métier en observant les films où se produit Samia Gamel, la grande actrice et danseuse égyptienne, et bientôt sa sensualité affole les spectateurs. Ces années d'après-guerre où le jazz résonne dans les caves de Saint-Germain, les cabarets orientaux se multiplient. Il y a donc la Casbah, rue de la Harpe, l'Oasis, un cabaret dancing, le Gypsy, boulevard Saint-Michel, le Bagdad, rue Saint-André-des-Arts. Y défilent la plupart des musiciens et chanteurs du Maghreb et du monde arabe. Ils y gagnent bien leur vie. La vague de l'orientalisme touche alors presque toute l'Europe, des artistes allemands ou même scandinaves, comme en 1948, avec un musicien et compositeur danois, Georges Ulmer, qui, avec son orchestre, interprète ce Casablanca où des foules grouillantes au souk profond de l'air mystérieux des cafés morts au tam-tam de l'islam se bousculent tous les clichés.
Casablanca, ville étrange et troublante, j'aime tes rues chaudes et ta foule grouillante. Indigènes avec leur djellaba qui vers la mosquée s'en vont prier Allah. Et sous profond où jamais le jour ne peut naître, et tes Fatma guettant derrière leurs fenêtres. Casablanca, du fond des cafés morts, dans l'air mystérieux, monte jusqu'à l'aurore. Le tam-tam de l'islam et le parfum des kawas, c'est ça. Casablanca, Casablanca, sous la lune qui brille, je reviens rôder dans le quartier des filles, où la nuit, quelle que soit la saison, l'amour vous appelle devant chaque maison. Et au lointain, c'est un vieux piano mécanique joue sans fin sa chanson triste et nostalgique. Casablanca, ville étrange et troublante, j'aime tes rues chaudes et ta foule grouillante. La plus belle, l'éternelle, la ville qu'on n'oublie pas, c'est toi.
Casablanca, 1948, Georges Ulmer et l'orchestre du français Daniel White. Ces années d'après-guerre, tandis que le jeune chanteur algérien Slimane Azem, qui tient un café dans le 15e arrondissement, fait ses premiers enregistrements où il chante son mal-être du pays, que Madame Sovia vend à Barbès les premiers disques d'artistes nord-africains, la mode des cabarets orientaux enfle donc à Paris, concentrée principalement, on l'a dit, rive gauche. Parmi les établissements les plus célèbres, il y a le Tam Tam, inauguré en 49 rue Saint-Séverin. Son patron, Mohamed Ftouki, voulait l'appeler le Grand Maghreb. Bien trop sulfureux dans le contexte colonial, lui avait rétorqué la préfecture de police. Alors le cabaret s'était baptisé Tam Tam, acronyme de Tunisie, Algérie, Maroc. Au début, c'est un simple café-restaurant fréquenté par les immigrés nord-africains, jusqu'à ce que son propriétaire se mette à faire jouer de la musique et y danser des filles. Le tam-tam devient alors un véritable cabaret mêlant dîner, spectacle rythmé par des numéros de danseuses, mais aussi par les tours de chant de grandes voix de la diaspora, comme la propre fille du propriétaire Warda, qui se forge une immense réputation et deviendra l'une des plus grandes voix du monde arabe, surnommée par Nasser plus tard Warda El Jazaira, la rose algérienne.
C'était donc à mon père, ça s'appelait le tam-tam. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, on avait appelé ça Tam Tam parce que T, c'était Tunisie, Algérie et Maroc. On avait donc essayé de faire le Maghreb dans le nom de ce salon de thé oriental. Alors au début, nous ouvrions que jusque 8 heures. Ensuite, ça a eu tellement de succès, c'était 10 heures. Ensuite, c'est la fermeture à minuit. Seulement moi, vous comprenez, je chantais de temps en temps quand il y avait d'abord des gens qui écoutaient et non pas des touristes. Et il fallait quand même que je chante avant 10 heures, parce qu'il fallait que j'aille à l'école le lendemain. Vous vous rendez compte un petit peu du rythme de vie que j'avais? Et ça m'a pris, vous comprenez? C'est là-bas que j'ai grandi, et c'est là-bas que j'ai appris à aimer le monde arabe, la musique arabe. Et c'est très drôle, parce que c'est à Paris que j'ai appris à aimer mon pays, qui est l'Algérie, et l'Égypte, et la musique et le monde arabe.
La chanteuse Warda, ici dans une archive de 1984, dans ses cabarets, mais aussi dans les cafés arabes de la capitale, se produisent donc les grands musiciens algériens, marocains, tunisiens, que, avant-guerre déjà, Pathé, Vogue ou Odéon étaient venus enregistrer de l'autre côté de la Méditerranée. Ils font aussi leurs premiers pas de jeunes talents, comme la chanteuse Eliane Serfati, une native d'Alger, surnommée Lynn Monti. En 52, elle enregistre pour Pathé Marconi plusieurs 78 tours en langue arabe, notamment une chanson composée par Youssef Hajej, L'Oriental, une chanson célèbre qui sera reprise dans la foulée et dans une version accélérée par l'obscur trio Joroka.
Ma yassar, ma yassar.
m'appelle l'Oriental par le trio Joroka, enregistré vers 1961-1962. Ces rythmes exotiques, ces chansons typiques, on les entendait donc dans les cabarets et les music-halls, mais on les achetait également en nombre pour animer les soirées. C'est l'époque de l'engouement pour les premières surprises parties, les 45 tours, les électrophones. Le niveau de vie et le pouvoir d'achat augmentent, on s'achète des voitures, on part en vacances, à bord des premiers charters, on veut toujours plus de dépaysement. On rêve d'ailleurs ensoleillé, les premiers Club Med se multiplient. Le reste du temps, quoi de mieux pour s'évader que la danse, la rumba popularisée dans les années 30, le mambo, puis le cha-cha-cha en vogue dans les années 40, le jazz ou le twist. Les compositeurs qui s'engouffrent dans l'orientalisme jouent à plein de ces nouveaux rythmes. D'autant que bientôt, ces cabarets orientaux ne s'adressent plus tant qu'aux riches maghrébins de la diaspora qu'aux touristes de passage. Les décors deviennent toujours plus luxueux, attirant le gratin artistique, comme en témoigne le musicien kabyle Kamel Hamadi, venu s'installer à Paris avec son épouse, la chanteuse Noura.
Quand je suis venu en 1959, j'habitais rue Dauphine avec ma femme, et presque tous les soirs, on allait au cabaret Jezer, au Liban, parce qu'il y a les nuits du Liban à côté, il y avait le Bardad à côté. Et presque souvent des célébrités. J'ai vu là-bas Jean Marais, j'ai vu là-bas Brigitte Bardot, j'ai vu des grands écrivains, j'ai vu des grands auteurs. Venez voir, parce que c'était beau quand même à voir. D'abord le Jezer ou Bardad, les décors qu'il a fait, c'est un peu en pensant au pays, et un peu en pensant à Mille et une nuits. Et c'est beaucoup de décors qu'on fait chez nous. Les gens aisés qui se permettaient de faire du luxe chez eux, ben c'était à peu près comme ça.
Ces artistes exilés, quelle que soit leur région d'origine, recréent donc à Paris une petite communauté. Au petit matin, après leur prestation, ils se retrouvent pour dîner dans le quartier, comme au Monte Carlo, rue des Écoles, à deux pas de la Sorbonne, où ils engloutissent des plats de pâtes. Ceci dit, soyons honnêtes, l'Orient à Paris ne se résume pas au quartier latin et à la rive gauche. La rive droite accueille, elle aussi, quelques cabarets près des Champs-Élysées. Il y a l'Ismaïlia Follies, ouvert dès 47 avenue Montaigne, dans l'ancien hôtel particulier de Ferdinand de Lesseps, ou bien le Sérail, rue du Colisée, qui accueille une clientèle huppée allant du roi Farouk à Oum Kalsoum. Il y a le restaurant Les Nuits du Liban, dans le 20e arrondissement. Et puis surtout, il y a le Soleil d'Algérie, rue du Faubourg Montmartre, dans le 9e arrondissement, où officie vers 1960 le chanteur pied-noir Alberto Staifi, mais où, des années plus tôt, triomphait déjà le grand Lili Boniche.
Et puis en 46, j'ai dit, tiens, je vais partir à Paris. Je suis allé à Paris, il y avait un cabaret qui s'appelait à l'époque le Soleil d'Algérie. Mais alors, un cabaret très chic, hein. Et c'est là-bas que j'ai rencontré, en 47, là, il y avait Mitterrand qui venait, François Mitterrand.
Ah, donc c'est à partir de là que vous connaissez François Mitterrand?
Oui, il venait au Soleil d'Algérie, lui.
Dans le 9e arrondissement à Paris?
Dans le 9e arrondissement, il venait avec des députés. Ils étaient une douzaine, comme ça. Et puis, il venait à l'estrade vers les minuit, il me disait, Lili, je vais à l'Assemblée, je reviens à 1h30, tu es là, je bouge pas. Il revenait à 1h30, il restait jusqu'à 3h du matin. Il adorait ma musique.
Fr- France Culture, Jukebox aujourd'hui, Lorient sur scène, Grand Paris, Rouler des hanches.
عينك بكا وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم دعت حياتك والأمال وحدك ما حطار تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له يبكى وتظهر حليم مشغول البال جافك النوم دعت حياتك بالأمال وحدك ما حطار تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور
بامينو
وقربها متاملو
بامينو
لكن الحب يا مغرور
بامينو
صعيب وانت ما تقدر له اضحك والعب بالماندولينو وسلي بامينو الحنك تعجبني احنينا وتطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بامينو اليوم راك مهني على المندولين تغني انت بشعرك مثل الذهب
بامينو بامينو
روحي يا صبي ما زلت صغير
بامينو بامينو
مع الصبيان مشيت تلعب
بامينو بامينو
الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما
Bambino, d'abord enregistré par Dalida en 1960 et reprise en arabe la même année par le chanteur Lili Boniche. Lili Boniche qui, comme Lynn Monti ou le chanteur Blon Blon, le farceur de cette génération, incarne une génération d'artistes judéo-arabes qui reprennent à leur compte la vieille tradition de la musique arabo-andalouse. Ils chantent souvent le France-arabe ou franc-arabe, aussi baptisé le français café, mélangeant à l'arabe des couplets en français. Histoire de mieux se faire comprendre. Et puis il y a tous les autres musiciens qui, dans leurs origines du moins, n'ont rien d'oriental, mais qui se saisissent de ce répertoire pour suivre les goûts de l'époque. Parmi eux, un certain Léo Clarence. Léo Clarence, de son vrai nom Louis Tiramani Coulpied, était né à Marseille en 1923. Clarinettiste, il avait formé son premier orchestre au début de la guerre. Bloqué ensuite pendant une partie de la guerre à Alger, il devient le chef d'orchestre de la 2e division blindée, la 2e DB. À la libération de Paris, il reste sur place et enregistre quelques reprises de standards américains, mais aussi bientôt nombre de chansons typiques sous divers pseudonymes. Kemal Rachid, les Killy Cats, Mohamed Ben Abdel Kader, mais aussi donc Léo Clarence, se faisant remarquer par la qualité et le raffinement de ses arrangements, comme dans ce Cha-Cha-Cha au harem de 1958.
<t'->
Cha-cha-cha au harem 1958, Léo Clarence et son orchestre. Léo Clarence, étonnant compositeur qui brille autant par la beauté et la finesse de ses arrangements que par la naïveté déconcertante des paroles de certaines de ses chansons, célébrant tous les clichés possibles, des loukoums au café turc, comme dans cet autre titre publié en 1960.
Je suis entré dans un
café turc
pour boire une tasse de
café turc
parce que j'aime bien le café turc. Café turc, j'ai appelé le garçon du
café turc
et j'ai demandé un
café turc
parce que j'aime bien le café turc.
Café turc.
En Turquie dans un vrai
café turc.
Parce que j'aime bien le café turc. Un café
pas turc,
j'ai pu boire enfin du
café turc
parce que j'aime bien le café.
De garçon, t'aurais pas un petit morceau de sexe, s'il vous plaît?
Le groupe Kemal Rachid et ses Ottomans au café turc 1960. Qui semble constituer une sorte d'âge d'or pour cette manière de chanson orientale. C'est cette année qu'un certain Bob Azam, un chanteur égyptien d'origine libanaise qu'on écoutait déjà au début de cette émission, connaît, après un détour en Italie, un immense succès en France avec quelques titres restés célèbres, même si leurs paroles, soyons clairs, là non plus, ne volent pas bien haut. Fais-moi du couscous chéri, viens, je vends les pains, mais aussi la chanson traditionnelle Mustapha. Bientôt, son orchestre tourne sans relâche dans les cabarets et casinos de la Méditerranée. En mai 1960, Time Magazine lui consacre un article élogieux et à la fin de la même année, Bob Azam se produit à l'Olympia.
La salsa de pomodoro, chérie je t'aime, chérie je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, Ana va Eva, ya Mustafa, Saba se ni te la tari, pero a ti dina se va así.
Ta'ala ya Mustafa, ya Ibn Sarhan, افتحني راع عجمي ولف على الجيران.
وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو. وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو. يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين في العطار في وقت جينا شمسين.
Quand je t'ai vu sur le balcon,
pas de façon. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte, ne fais pas de façon.
Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeta, ya Mustafa, sabas en inferatar, de lo achinina, chemaxim.
Tu m'as allumé avec une allumette, et tu m'as fait perdre la tête. Tu m'as allumé avec une allumette, et tu m'as fait perdre la tête.
Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeta, ya Mustafa, sabas en interatar.
Bob Azam, Mustapha, 1960, une chanson qui devient un temps l'hymne officieux des Pieds Noirs et se trouve par là même interdite d'antenne.
جتني فرقتك بعيدا.
Car évidemment, les événements d'Algérie, comme on les désigne par un incroyable euphémisme, commencent à dégénérer. Dès 58, Mohamed Ftouki, le patron du cabaret Tam Tam, accusé de cacher des armes pour le compte du FLN, doit quitter la France avec sa famille. Les choses s'accélèrent en 1960. En janvier, la semaine des barricades d'Alger voit se soulever les partisans d'une Algérie française. En septembre est publié le manifeste des 121 sur le droit à l'insoumission en Algérie. En octobre ont lieu des rafles d'Algériens à Paris et en banlieue. Début 61, les Français se prononcent par référendum en faveur de l'autodétermination du peuple algérien. En réaction, le putsch des généraux tente de prendre le contrôle d'Alger. Se crée également la funeste OAS qui, l'été suivant, tandis qu'on débutait les entretiens d'Évian, multiplie les attentats. C'est l'engrenage de la violence. En réponse à l'assassinat de policiers par le FLN, le préfet de Paris Maurice Papon impose le 6 octobre 61 un couvre-feu. Les Algériens, musulmans, est-il spécifié, ont interdiction de sortir de chez eux entre 20h30 et 5h30 du matin. Leurs débits de boissons doivent même baisser le rideau dès 19h. Ces mesures entraînent le 17 octobre une vaste manifestation pacifique. 20 000 Algériens osent défiler dans les rues de Paris. La répression est brutale, des dizaines de morts, des centaines de blessés, des corps jetés à la Seine, plus de 10 000 arrestations et 1 500 individus illico expulsés. Quelques mois plus tard, en février 62, le drame du métro Charonne coûte la vie à 9 personnes. Pendant ce temps, dans les cabarets, les policiers font des descentes, contrôlent l'identité des clients, arrêtent ceux qui paraissent louches, s'assurent que n'y sont pas chantés des airs nationalistes pro-Algérie. Mais le harcèlement vient aussi des émissaires du FLN qui, dans l'ombre, intimident les danseuses pour les dissuader de boire de l'alcool ou de frayer avec les clients français et qui rackettent les patrons des établissements au nom du nécessaire effort à la lutte de libération nationale. Malgré cette ambiance de plus en plus délétère, sur scène, on continue de s'accrocher à la recette qui fonctionne, celle d'un Orient joyeux et potache. Illustration avec les merguez, l'un des tubes du chanteur Blond Blond, paru en 1962.
Allez merguez, les merguez, couscous et la yuk-yuka. Après ça, un kawa, on dansera la bossa nova. We'll be right back.
bonsoir chérie. Elle me dit pour qui me prenez-vous? Ah, je lui dis pour un Scooby-Doo. Elle me dit alors ça change tout. Je lui dis on va boire un coup. Elle me dit maintenant j'ai faim. Tu sais ce que je mangerai bien. Oh dis, c'est pas du hasman ça mon ami. C'est des merguez, couscous et la tchouk-tchouka. Après ça, en kawa, on dansera la bossa nova. Aïe, merguez. Là-bas c'est très sympathique, et puis surtout c'est typique. Quand on a fini de manger, elle m'a dit m'akramin gaji. Quand tu seras mon petit mari, on se tapera le jour, la nuit. On dit qu'est-ce que mon collègue? C'est pas la saucisse de Toulouse ça, hein? C'est des merguez, couscous et la tuk-tuka. Après ça, à Kawa, on dansera la bossa nova. Si c'était Maurice Chevalier qui devait chanter cette chanson. Et voici venir Maurice devant nous avec son canotier. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voyez-moi, c'est merveilleux. Bientôt vous ferez tous comme moi, car c'est le meilleur repas. Quand il y a un invité, pas besoin de vous inquiéter, il sera très enchanté. Quand il aura dégusté, va paume, c'est moi. Alors mon pote Maurice, c'est pas des pommes ça, mais à 80 berges, tu pourras encore manger des merguez, couscous et la tchouk-tchouka. Après ça, à Kawa, on dansera la bossa nova. Après ça, en kawa, on dansera la bossa nova. Oh, que c'est bon, les merguez.
1962, les merguez par le chanteur Blomblon de son vrai nom Albert Rouimi, né à Tlemcen en Algérie et qui depuis l'après-guerre déroulait ses chansons fantaisistes dans des soirées privées et les cabarets orientaux de Paris, des cabarets où malgré les soubresauts et les drames qui jalonnent la fin de la guerre d'Algérie, l'insouciance continue de résonner. Beaucoup de fêtes préfèrent regarder ailleurs, continuer de voir dans l'Orient l'éternelle promesse de dépaysement. Sort sur les écrans mondiaux le film Laurence d'Arabie, avec notamment Omar Sharif, son regard de braise, sa moustache impeccable, qui devient l'incarnation d'un Orient insaisissable, raffiné et élégant. Le film, porté par la légendaire musique signée Maurice Jarre, dont le thème est ici repris par Raymond Lefebvre, rafle 7 Oscars l'année suivante. En 65, la chanteuse Noura, la femme du chanteur Kamel Hamadi, publie un disque entièrement chanté en français, comprenant notamment la chanson « Paris dans mon sac » dans lequel elle chante « Tout me fait envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac, Paris, jolie bagatelle, étincelle qui m'appelle ».
même si, pour la plupart des 500 000 Algériens de France, et notamment ceux de la région parisienne, Paris ressemble plutôt à des taudis hors de prix, ceux de l'est et du nord de la ville, voire aux bidonvilles de banlieue dans lesquelles ils s'entassent les pieds dans la boue, archive ORTF 1966.
Pour commencer, il y a le racisme. Le Français dont on dit qu'il n'est pas raciste le devient souvent face à l'Algérie.
Quand on se dispute avec un Français, l'autorité française directement, elle dit le fautif là-dedans, c'est l'Algérien. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me disputer avec des Français. Et puis, celui qui était embarqué pour aller au poste, c'était moi.
Mais dans le métro, ça vous est arrivé de vous trouver à côté de quelqu'un, justement, qui ait une réaction raciste ou...
enfin, oui, ça m'est arrivé. La plupart des fois, c'est une femme. Premièrement, quand on est assis sur un siège et il y a d'autres places à côté de nous, si c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, eh ben, elle aurait peur de s'asseoir à côté de nous parce que je dirais, tiens, je vais me salir à côté de ces gens-là.
Et la boue?
Ouais, c'est la pluie qui a fait ça, mais on ne peut rien y faire. Hein. C'est un destin qui nous est fixé de vivre dans cette boue en ce moment. Puisque les autorités françaises ne veulent pas nous aider. Alors on vit dedans, on marche. Et puis on se dit, ce soir, on cirera nos chaussures.
Ça vous gêne lorsque vous invitez quelqu'un?
Un camarade, par exemple.
Oui.
Et de le faire rentrer dans mon baraquement, ça me gêne beaucoup. Même souvent, beaucoup de camarades ne savent pas que j'habite dans un bidonville. Je leur dis même pas. Je leur dis que j'habite dans un pavillon luxueux. Vous savez, c'est pour me montrer, pour dire que je suis aussi bien placé que vous. Puis j'ai jamais invité un camarade.
Entre-temps, avec les indépendances, une partie de l'élite maghrébine qui vivait en France rentre au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Elle est remplacée par une immigration plus populaire, des commerçants, des ouvriers. Ces nouveaux venus se rassemblent plutôt dans les cafés bon marché, situés notamment dans les quartiers populaires du nord de la capitale, Barbès ou Stalingrad. Ils y découvrent les scopitones, ces ancêtres des clips. La hausse des loyers entraîne la fermeture de nombreux cabarets, comme El Jazair, qui baisse le rideau au début des années 80 et sera remplacé, comme d'autres, par des vendeurs de kebab. Un temps, ces cabarets orientaux se délocaliseront plus au nord de la ville, dans le très huppé 8e arrondissement, près des Champs-Élysées, attirant une nouvelle clientèle venue des pays du Golfe ou du Liban. C'est dans ces cabarets que se développera, au mi-temps des années 80, le nouveau raï, celui des Cheb, Mami, Khaled et autres. Avant que la mode des cabarets ne passe définitivement de mode, certains établissements se déplaçant en banlieue ou se changeant en discothèques plus rentables. Mais restons pour finir à la fin des années 70. L'ambiance a changé, la fascination béate pour l'Orient a laissé la place aux soupçons envers les immigrés et ces derniers ne peuvent plus afficher comme auparavant leur optimisme et leurs espoirs d'intégration. Ainsi, le trop méconnu Mohamed Mazouni, arrivé en France en 68 et qui écume pendant quelques années les derniers cabarets de Paris, mais ici les bistrots ou les foyers de travailleurs, chantant de manière souvent crue sa désillusion envers le racisme. Mazouni qui, en 76, tandis qu'est mise en place l'aide au retour des immigrés dans leur pays d'origine, semble prendre note, comme dans ce « Adieu la France », que les clichés ont bien vécu et qu'une page s'est tournée.
Thank you.
adieu la France, bonjour l'Algérie. Quand je t'ai quitté, combien j'ai pleuré. Fini ce France, fini l'indifférence. Bientôt je serai avec toi, chérie.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui, L'Orient Rive Gauche, une histoire des cabarets orientaux parisiens, une émission préparée par Lily Cornert, Virginie Gresset à la documentation musicale, Hervé Evano, Alina et le concours joyeux d'Ifrikia Batin-Audras. Les archives entendues ont pour la plupart été tirées d'une émission de la Fabrique de l'Histoire consacrée en 2009 par Catherine Guilliardi à cette odyssée. À mettre entre toutes les oreilles l'excellente compilation Chacha au harem publiée par Born Bad Records en 2020. Ces informations, quelques éléments de bibliographie, la liste des morceaux diffusés, vous les retrouvez à la page de Jukebox depuis laquelle vous pouvez réécouter cette émission. Pour le téléchargement, préférez l'application de Radio France. À la technique aujourd'hui, c'était Maïwenn Lejouan, Agnès Catou à la réalisation. Merci à toutes deux, au micro et au stylo, à Maurice Chardot. À dimanche, 15h, pour un prochain Jukebox.